Vous êtes sur RTL.
Alors, quel est votre choix ce soir à 18h50?
Ah bah ça, il faut leur demander à eux. C'est leur choix. Catherine Boulay pour Le Monde, Christian Minanto pour L'Économie et Julia Moulcou qui est en cuisine ce soir. Bonsoir à tous les trois.
Salut Thomas.
Bonsoir.
On va donc en Grande-Bretagne pour commencer avec vous Catherine, où les accusations d'antisémitisme pourrissent littéralement la campagne de Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste, et ce avant les élections qui auront lieu le 12 décembre là-bas. Pourquoi ce choix?
Parce que ça rend l'ambiance de cette campagne extrêmement lourde. Je vous rappelle que vous avez deux camps. Vous avez face à face Boris Johnson pour les conservateurs et puis vous avez Jeremy Corbyn pour les travaillistes. Hier, dans une tribune dans le Times, eh bien, le grand rabbin du Royaume-Uni a implicitement appelé la communauté juive à ne pas voter pour Corbyn. Ensuite, c'est l'archevêque de Canterbury, le chef de l'église anglicane, qui lui a emboîté le pas sur Twitter. Alors, ce qu'on lui reproche à Corbyn, c'est pas neuf, ça date même de 2015, c'est d'avoir laissé fleurir les propos antisémites au sein de son parti. Alors, hier soir, il y a eu un grand moment de télévision sur la BBC. Le présentateur vedette a insisté pour que le travailliste, le chef du parti travailliste, s'excuse.
Voudriez-vous saisir l'occasion ce soir de vous excuser à l'égard de la communauté juive?
Je dirais la chose suivante, je suis déterminé à ce que notre société assure la sécurité de toutes les confessions. Personne ne doit se sentir en insécurité dans notre société.
Alors vous comprenez, il ne s'excuse pas. Deuxième puis troisième tentative.
Andrew, est-ce que je peux vous expliquer ce qu'on essaye de faire?
Vous pouvez, je vous ai donné plein de temps pour ça. Je vous ai demandé si vous vouliez vous excuser, vous ne l'avez pas fait.
Bon, mais il est antisémite ou pas, Corbyn?
Il n'est pas antisémite, il est pro-palestinien. Mais il a plusieurs fois affiché sa sympathie pour la communauté juive. Il s'est déjà excusé pour les dérapages qui ont eu lieu il y a quelques années. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il a été passif au sein de son parti et c'est ça qu'il paye aujourd'hui.
On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Et le cardinal de Retz, ce n'est peut-être pas si vrai dans la politique anglaise. Christian Mélenchon, vous nous parlez ce soir des traders. Pourquoi ce choix? Pour rester en Grande-Bretagne?
Pas tout à fait, parce qu'il y en a partout d'abord. Et surtout pas pour les plaindre. Hein. La rémunération moyenne d'un trader à Wall Street, par exemple, ça frise toujours les 400 000 dollars par an. Mais tout simplement parce qu'il semble que ce soit une race en voie de disparition. On a fait un recensement de ces jeunes loups qui sont bourrés de testostérone et de dollars, qui sont les stéréotypes des dérives de
l'hyper. Vous ne seriez pas un peu jaloux, vous, non?
Pourquoi? Pour la testostérone ou pour les dollars?
Non, vous n'avez rien à leur envier.
Donc ça, c'est quand même... Ils ont été emblématiques de l'hyper-financiarisation de la dernière décennie. Alors, on a été regardé dans les 12 plus grandes banques du monde, dont la BNP Paribas et Société Générale. Eh bien, on a découvert que cette population de traders, elle avait diminué de 50%.
Ah ouais, donc c'est à leur tour de subir la crise qu'ils ont alimentée en quelque sorte.
Absolument, l'onde de choc qui a frappé l'économie réelle, eh bien, elle ne les épargne plus. Les salles de marché restent toujours bien sûr très rentables, mais elles ne baignent plus dans cette opulence irrationnelle d'hier, et les métiers de la spéculation sont socialement de plus en plus intolérés, peu toléré et surtout financièrement moins attractif. Et puis ces petits génies des mathématiques, ils sont peu à peu remplacés par des robots et de l'intelligence artificielle.
C'est-à-dire que ce sont des machines qui vont gérer la bourse et les marchés.
Bah, si vous comptez actions d'entreprise, obligations des États, taux de change, cours des matières premières, tout ça, il y a des algorithmes maintenant qui sont à la manœuvre. Et eux, ces algorithmes, ces machines, ça n'exige pas des bonus démentiels, ça ignore le nomadisme professionnel. En un mot, ça fait le boulot moins cher.
Salut payé.
Eh bien, ça paye moins.
Comme disaient Fernand Reynaud et Christian Mélenchon, ils sont sur la même ligne éditoriale, finalement, tous les deux. Julien Moulcou, ce soir, votre choix. Qu'est-ce qui se passe? Ce porte sur livre de cuisine?
Ça, c'est le jingle de Top Chef. Faut regarder M6, hein?
Bien sûr. Pourquoi ce choix?
Eh bien, parce que j'ai trouvé un livre avec un titre génial. Ça s'appelle « Pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas ?» C'est édité chez Marabout et c'est écrit par Arthur Lequen. Et en fait, ce livre répond à toutes les questions que vous vous posez et que nos enfants nous posent de temps en temps. Donc maintenant, grâce à moi, vous allez avoir les réponses. Je vous propose d'ailleurs de faire un petit quiz pour tester vos connaissances. Alors, on commence avec une question facile. Pourquoi la mimolette est-elle orange?
Pour qu'on la voit mieux.
Non, faux.
Parce qu'elle est néerlandaise.
Parce qu'on la peinte.
Alors, pas loin, Catherine, pas loin. En fait, au XVIIe siècle, Colbert interdit l'importation de fromage de Hollande. Du coup, la mimolette française est effectivement teinte, alors pas vraiment teinte, colorée avec du roucou, qui est un petit arbuste, dont les petites boules rouges donnent cette couleur. Voilà. Bravo, Catherine. Un point pour Catherine. N'a pas un jingle quand elle gagne?
Oh, mais dites donc, mais il n'y a pas écrit Bécasse ici.
Je savais bien qu'on avait un jingle. Deuxième question. Pourquoi le vinaigre balsamique n'est-il pas du vinaigre?
Ah, moi je savais pas que c'était pas du vinaigre.
Il
n'y
a pas d'alcool dedans?
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec du vin aigre. Voilà, le vinaigre balsamique.
Vous m'avez pas laissé le temps de répondre, j'allais le dire.
Non, ouais, juste. Le balsamique, c'est suave, c'est sucré, c'est fabriqué dans la région de Modène à partir de moût de raisin, c'est-à-dire le jus plus la peau. Ouais. Ça n'est absolument pas un condiment et ça devrait même être, ça devrait être considéré comme un condiment et pas comme un vinaigre. Alors on termine avec une dernière question. Pourquoi les spaghettis bolognaises, ça n'existe pas?
Mais si, ça existe. Allez chez Crocante, rue de Vaugirard, un petit italien formidable, une petite taverne de rien. Stop. Vous y allez de ma part, chez Crocante,
bon, tu commandes des spaghettis. Parce que Bologne n'existe pas.
Ah, c'est Bologne, ça existe.
Bologne, ça existe.
Non, ah ouais. Alors en fait, c'est parce que.
Ce qui m'inquiète, c'est que Catherine, elle fait l'international. Elle vous dit Bologne n'existe pas. Voici au début d'un long hiver. Allez-y.
Les spaghettis, on n'est pas du sud de l'Italie. Et Bologne, qui existe, Catherine, c'est au nord de l'Italie. Donc déjà, c'est pas possible. Les spaghettis bolognaises, ça a été inventé par les Italo-Américains qui ne trouvaient pas aux États-Unis les tagliatelles. Et d'ailleurs, si on réfléchit, c'est complètement idiot, les bolognaises avec des spaghettis qui sont longues et fines, avec une sauce qui tombe toujours au fond de l'assiette. Et ben voilà, tout ça et bien plus encore, je l'ai appris dans ce livre. Donc si vous voulez savoir pourquoi les œufs sont ovales et pas ronds et pourquoi dans le sushi le plus important c'est le riz et pas le poisson, et bien vous achetez pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas chez Marabout, et c'est vraiment un livre super et pas que pour les enfants.
Mais c'est peut-être idiot les spaghettis bolognaises, mais c'est
mais
bon.
C'est bon.
Voilà, exactement. Merci à vous,
toujours raison,
surtout
patron.
Le fond.
Ah oui, avec la sauce, le pain.
À table.
La météo avec First Stop part tous les temps. Relaxez-vous avec First Stop, pneus et entretien de votre auto.